I got glue in Anchor et pour I told the pie party.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit de pas m'engarer, pas m'engarer.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite souche a perdu une belle plume de haut.
Pas m'engarer, pas m'engarer.
Mais si l'amour.
Et bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans l'écho du parquet, c'est l'émission la 34e.
La 34e, oui, c'est ça.
Voilà, que vous pouvez écouter sur Radio Saint-Ferréol 94.2, sur Radio Méga 99.2, sur Fréquence 7 92 FM ou...
Ça, c'est si vous habitez en Drôme Ardèche, et si vous avez la malchance de ne pas habiter en Drôme Ardèche, vous pouvez nous entendre quand même sur notre audioblog Arte Radio. Voilà. Et donc, dans cette 34e, on va beaucoup vous parler du groupe La Cialire, avec lequel on a fait une interview quand ils ont eu la chance de venir en Drôme Ardèche. Et quelques nouveautés qu'on va vous passer, puis on va commencer par une nouveauté de poids.
Voilà, une nouveauté de poids, puisque c'est le nouvel album de ce Diato Hero.
Ouais, c'est bien.
Qui est au Balfolk, un peu ce que Jimi Hendrix est au rock, une figure hyper populaire dont on n'a pourtant encore jamais parlé.
Ouais.
Auteur d'un style bien à lui et qui convertit des générations à l'apprentissage de son instrument. Il s'agit de... Bon, en fait, ça pourrait quand même être plusieurs personnes, mais là, en l'occurrence, il s'agit de Rémi Geffroy. Rémi Geffroy est donc accordéoniste diatonique et compositeur. Il enflamme les scènes de bal depuis une quinzaine d'années et ses compos habitent les bœufs, les stages et autres recueils de partitions.
C'est un des premiers trucs qu'on entend quand on s'intéresse au trad et c'est un des premiers trucs qu'on note dans les bœufs. On se dit « Ah, c'est quoi ce truc-là? Je voudrais l'apprendre. C'est quoi ?» C'est Rémi Geffroy.
Pour l'instant, en tout cas. Parce qu'on a déjà parlé dans l'émission sur le bœuf que les bœufs sont soumis à quand même une temporalité dans les modes.
Ça, oui. Voilà. Un jour, Rémi Geffroy sera saucissonné, peut-être. Quoique, ça commence, hein, sur pas mal de morceaux, on dit oui, on l'a déjà joué plein de fois.
Un débat à soumettre à la prochaine émission. Alors, donc, c'est dans la veine d'un trad aux mélodies bien léchées, aux arrangements tirés du classique ou du jazz, et il a développé avec ça un groupe solo et une extension en sextet. On écoute donc un morceau issu de ce dernier album qui est sorti le mois dernier, qui s'appelle Carrefour des Anges. Et là, on écoute une bourrée à deux temps qui s'appelle Ouroboros.
Thank you.
Allez, changement, virage à 180 degrés sur l'écho du parquet, après les arrangements très très modernes de Rémi Geffroy, et puis la batterie et tout ça, on va aller vers quelque chose de trad de chez trad, avec un petit tour du côté de nouveau de l'AEPEM. L'AEPEM, l'Association d'études et de promotion de l'enseignement des musiques traditionnelles des pays de France. Et on va aller voir leur collection de disques qu'ils produisent sous le nom de 1. 1 pour un musicien, un instrument, un répertoire. Voilà. Nous avions déjà...
Il y a un disque ?
Non, alors voilà, c'est ça, il n'y a pas un disque, il y en a plusieurs, puisqu'on avait déjà évoqué cette collection dans l'écho du parquet avec un album du violoniste Étienne Lagrange qui était consacré au répertoire de Normandie. Et l'on va aujourd'hui vous faire entendre de la cabrette jouée par Cédric Bachellery pour explorer le répertoire du livre à doigts.
Bon, ok, alors, mais là... juste un morceau. Hein.
Juste un morceau, d'accord. Ah, ça commence les blagues sur la cornemuse, il y en aura d'autres, on est désolé. La cabrette, c'est une cornemuse donc, qui est surtout jouée en Auvergne et dont le nom vient du fait que le sac était à l'origine fait en cuir de chèvre avant que le monde ne devienne vegan et choisisse de plutôt utiliser des produits synthétiques pour éviter de la souffrance animale inutile, même degré de souffrance auditive, diraient les gens qui aiment faire des blagues sur les cornemuses, c'est-à-dire pas chez nous.
Ah non, il n'y a pas de ça chez nous, pas de
ça
chez nous.
Pour
ceux et celles qui seraient intéressés par la cornemuse vegan, sachez que c'est en Gore-Tex. Vous pouvez démonter vos chaussures de randonnée et faire une cornemuse avec.
Voilà, ça c'était pour la partie musicalo-esthétique de cette chronique. Maintenant, abordons le versant éco-géographique. Et afin de se répartir un petit peu la parole pour plus de dynamisme radiophonique, c'est Amélie qui va vous expliquer ce qu'est le livre à doigts. Amélie, c'est à toi.
Le livre à doigts, c'est quand vous voyez dans votre bibliothèque, vous ouvrez... la...
vous... Le livre à doigts, c'est ça par rapport au livre à gauche.
Non, 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 c'est celui où il y a en fait des doigts dedans, ensanglantés, humains, de la dernière personne que vous avez trucidée. C'est le livre à doigts.
D'accord, merci Amélie. Alors en vrai, c'est évidemment précisé dans le livret du disque que l'on vous encourage à consulter, qui est comme toujours très riche avec les productions de ce genre qui sont faites par l'AEPEM. Le livre à doigts, c'est un territoire à l'est de l'Auvergne qui est écartelé entre les trois départements, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire. Voilà. C'est une aire de montagne qui est voisine du Sel du Forez, dont il est séparé par la vallée de la Dore. Je ne le savais absolument pas, je l'ai appris avec le disque.
C'est moins fun que mon hypothèse.
Voilà, c'est vrai. Et donc dans le livret, Cédric Bachellery présente son parcours de musicien et surtout pour chaque morceau enregistré, ses sources telles qu'elles ont été collectées auprès de musiciens de la génération née au début du XXe siècle. Donc il y en a beaucoup, c'est très instructif de lire le livret en plus d'écouter. Et donc pour illustrer ça, ben forcément, nous allons écouter une suite de bourrées à trois temps, celle qui clôt l'album que j'ai choisi parce qu'elle retrouve, elle regroupe pardon, justement sept thèmes qui sont spécifiquement issus de cette région, le livre à doigts. Voilà, cabrette.
Thank you.
Et c'était la Sialyre avec une suite d'avant deux. Voilà, la Sialyre qu'on a rencontrée.
Oui, on va vous proposer maintenant une interview de la Sialyre qu'on a réalisée à la nouvelle an dernière. C'est ça qui est bien quand on est tradeux, c'est qu'il se passe plein de trucs pour le 31 janvier. Et je crois que c'était Savas Loisirs Dromardance, des associations du coin, qui avaient fait un bal avec la Sialyre. On a pu les interviewer avant.
Je crois même que cette année, le 31 janvier, c'est tombé un 31 décembre. Ça, c'était vraiment incroyable cette année. Alors non seulement il y avait la Sialyre, mais en plus c'était en décembre. Non, vraiment, c'était une année exceptionnelle. Donc on les a rencontrés à cette occasion.
Je parlais du nouvel an Auvergnat qui tombe le 31 décembre. Allez, on vous fait écouter notre interview de la Sialyre.
Alors, Sylvain Quéré, à la guitare et au sistre. Alors, moi, j'ai commencé la guitare, j'avais 17-18 ans. J'ai prendre des cours par un musicien qui s'est installé dans mon village et qui jouait en dadgad. Voilà, c'est un accordage particulier de musique traditionnelle. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé dans la marmite des musiques trad. J'ai commencé par la musique bretonne. J'ai fait pas mal de fest-noz pendant quelques années, beaucoup de musique irlandaise. Et j'ai atterri à Lyon en 2005-2006, où j'ai rencontré la plupart des musiciens avec qui je joue actuellement. On s'est rencontré avec Nina à cette époque-là, d'ailleurs, lors d'une fête de la Vielle où Julien Cartonnet m'avait emmené, parce qu'on avait commencé à jouer avec lui à cette époque-là. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé le bal folk, il y a environ une quinzaine d'années, 15-20 ans.
Et Nina Lachia au violon 5 cordes. Et mon parcours musical, donc moi j'ai commencé le violon comme beaucoup de gens, fortement incités par mes parents, qui faisaient de la danse folklorique dans le Morvan. Donc j'ai commencé à la fois au conservatoire et en même temps en faisant des stages de musique folk dans le Morvan. À l'époque ça s'appelait Saint-Agnan, il y avait des écoles, des stages en automne. Donc j'ai traîné pas mal dans les bals, j'ai appris à danser là, j'ai fait de la musique là. Puis après j'ai boudé un peu le trad parce que la vie, l'adolescence et tout ça. Et je me suis remise vers 17 ans, j'ai découvert les festivals du Morvan, dont la fête de la Vielle, la fête du violon, la fête de l'accordéon. Et là je me suis bien remise. Et puis après je me suis un peu ouverte à d'autres musiques, musique irlandaise notamment. Voilà, d'autres régions aussi que j'avais pas forcément exploré avant. Donc voilà, je reste assez large sur mes répertoires, mais c'est en gros ce qui m'a amené jusqu'ici.
On parlera de la Sialyre beaucoup plus en détail par la suite. Est-ce que vous pouvez dire un mot quand même des autres formations dans lesquelles vous jouez chacun d'entre vous, les principales, et puis un peu qu'est-ce qu'elles vous apportent, qu'est-ce que vous faites avec ces autres formations, et puis après on verra la Sialyre en particulier.
Donc moi actuellement je joue, hors la Sialyre, je joue dans deux groupes de bal folk qui s'appellent Caden, donc un groupe avec Tiennet Simonin, Camille Rebaud, Julien Barmance et moi-même. On fait beaucoup de compositions, mais d'inspiration très traditionnelle. C'est du bal acoustique très, très pur, jus, voilà. Il y a aussi Ila, dans lequel je joue avec Stéphane Miret, Sébastien Tron et Diane Delzan. Un tout petit peu plus à tendance électronico, moderno, je ne sais pas comment le décrire, mais voilà, beaucoup de compositions là encore. Et en dehors de ça, j'ai joué encore un petit peu à l'occasion, mais plus trop, avec un piper écossais qui s'appelle Cullum Stewart. Ouais, on a un quartet de musique irlandaise aussi avec Nina qui s'appelle Upstay. Et j'ai aussi un autre groupe de musique irlandaise qui s'appelle Luas, mais c'est pareil, on a assez peu de dates pour l'instant. Voilà. J'ai encore un duo qui ne tourne plus, mais qui existe encore avec Sylvain Vudard, ex-Mr. Clough. Ouais.
Et donc les autres formations, j'ai un groupe historique, on va dire, avec qui j'ai commencé en 2014, qui s'appelle Trois Pas d'ici, On est donc avec Lucille Marsac et Marie Perra, on s'est rencontrés à Montpellier et on, voilà, on a continué à jouer ensemble, même si on est toutes parties de Montpellier, et répertoire chansons et instrumentales, pas mal de Poitou. En groupe de trad, j'en parle quand même, même si ça s'arrête cette année, mais j'ai joué dans Dry, en autre formation trad. Je viens de rejoindre le groupe Sioul, qui mixte musique trad Auvergne et musique funk. Donc moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est très varié. À la base, c'était Camille Stimpre, le violoniste, et on est un peu à deux sur le groupe. Et voilà, donc je viens de le rejoindre officiellement là. Voilà. Et sinon, j'ai plutôt des groupes de concerts. Spurious Tale, qui est un groupe de musique d'inspiration trad, parce que très centré musique à bourdon, avec de la cornemuse, des thèmes lancinants, etc.
Alors, La Cialire, dans vos parcours de musicien, c'est quoi le projet de La Cialire musicalement? Et puis, qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans votre parcours, ce duo-là?
Moi, ça m'apporte quelque chose que je n'avais pas et que je recherchais, c'était de jouer en duo. On joue depuis longtemps ensemble, mais c'est vrai que c'est en duo, je trouve qu'on a vraiment de la place pour s'exprimer, échanger, faire du dernier moment. Enfin, c'est quelque chose que j'apprécie. Puis un jour avec Sylvain, on se connaît depuis longtemps, on a des influences musicales communes, par beaucoup d'influences musicales communes entre le trad irlandais, le bluegrass et d'autres.
Moi, de mon côté, ce que ça m'apporte, c'est aussi pareil, beaucoup de liberté en tant qu'accompagnateur. Quand on joue en quartet, en trio, on est souvent cloisonné sur des grilles qui sont très écrites et très... Là, en duo, il y a beaucoup de parties d'improvisation, même si l'ensemble du répertoire est quand même relativement bien écrit, on se permet beaucoup de petites explorations, d'accompagnement ou autre. Enfin, en tout cas, pour un accompagnateur, c'est très très confortable de jouer en duo par rapport à ça. Pour reparler de la naissance du groupe, ça fait longtemps qu'on joue ensemble avec Nina, en fait, qu'on buffe ensemble, on a eu un groupe de musique irlandaise, on a eu un groupe de Balfol qui a longtemps aussi ensemble. Voilà, on va pas le cacher parce que c'est pas... Mais on est en couple aussi depuis quelques années et on a eu envie de faire de la musique ensemble et de partager cette expérience de la scène aussi à deux. C'est con, mais ça marche très très bien. Donc voilà, plein de raisons qui ont fait que ce duo qui au début c'était une envie de jouer ensemble s'est transformé en quasiment notre projet principal parce que ça a tourné... monstrueusement 2024. Enfin, c'était vraiment le groupe pour l'un comme pour l'autre qui a le plus tourné sur cette année.
Non, je ne dirais pas qu'il y a un territoire particulier, mais on est attaché l'un comme l'autre, je crois, à certains territoires de cœur. Moi, je pense au Morvan. Après, c'est difficile de dire s'il y a une couleur commune, mais en tout cas, ce qui nous caractérise, c'est la musique de cordes. Enfin, on adore jouer sur la synergie entre les deux, l'harmonie, les résonances, explorer tout ça. D'être à deux permet ça, puis d'avoir des instruments, entre le violon qui a 5 cordes, qui permet de varier d'un rôle de mélodie et d'accompagnement facilement, le sistre et la guitare qui peut aussi d'avoir les deux. Plutôt en termes de couleurs, il y a ça qui est commun. En termes de répertoire, c'est assez large. Quand des morceaux nous plaisent, on les joue. En termes de compo, c'est pareil, il n'y a pas forcément un style particulier. On compose aussi, ouais. C'est un tiers du répertoire à peu près, ouais, quelque chose comme ça.
Et peut-être que pour nous décrire, c'est mieux de nous rappeler des paroles qu'on a entendues. Il n'y a pas plus tard que hier soir, on nous a dit qu'on avait peur que ce duo soit un petit peu trop trad. La plupart des, enfin, des retours, d'autres retours qu'on a nous disent qu'on est sans doute un petit peu trop folk par rapport à certaines esthétiques, de, enfin bref, ou qu'on n'arrive pas à se situer. Voilà. Et moi, l'étiquette trad, folk, je la comprends, mais j'ai jamais été sensible à ça parce que mon parcours m'a amené à une porosité entre les deux qui était quand même plutôt forte. Alors oui, il y a certaines esthétiques très traditionnelles qui, sur lesquelles j'ai pas, j'ai pas trop mis les pieds en tant que musicien, même si j'ai beaucoup d'intérêt pour sa musique. Mais voilà, on est fermé à rien, on s'interdit rien, on essaie de respecter les styles.
Et deux instruments acoustiques, sans effet particulier, sans stomp, on essaie de garder ça, même si des fois c'est tentant parce que beaucoup de public attend ça, de la rythmique, de l'accompagnement. Mais on essaie de rester le plus acoustique possible, tout en n'étant pas fermé à, je sais pas, des fois des petites envies qui peuvent aller de faire des petites boucles, des choses comme ça, mais c'est très 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 ponctuel. Ouais.
Parler de vos instruments. Alors, je vais commencer par toi, Nina. Le violon à 5 cordes, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport au violon à 4 cordes? À quoi sert cette 5e corde? Est-ce que c'est une corde plus grave pour avoir des sons plus graves comme font les guitaristes de métal qui rajoutent une 7e corde à leur guitare? Et quelle est l'histoire de cet instrument aussi? Voilà.
C'est une histoire d'opportunité. Non, j'avais déjà remarqué, mais je savais que ça existait, plutôt les quintons, les violons 5 cordes, entre un alto et un violon, mais j'en avais pas. Et c'était pour mes 30 ans, je cherchais un bon violon et j'arrivais pas à trouver. C'est très dur de trouver un violon qui colle à ce qu'on attend. Et je suis tombée sur ce violon, un peu par hasard, à Montpellier, chez un luthier, alors que je cherchais un violon. Et un violon, donc, c'est vraiment un violon de Julie Maroncle, une luthière de Montluçon, je crois, qui a été retravaillé par un autre luthier, mais je ne sais pas qui a rajouté une corde sur ce violon. Donc il a vraiment gardé la taille, toutes les caractéristiques d'un violon, mais il a une 5e corde, qui est une corde de do, donc une corde grave. Et moi, ça m'éclate pour notamment en musique Centre France et pour les musiques à Bourdon, parce que ça permet. Il y a beaucoup de morceaux joués en do. Moi, qui aime bien faire de la rythmique et de l'accompagnement, ou jouer des thèmes graves, ça m'éclate, c'est vraiment un gros plaisir. Ça sort un peu, ça permet d'éviter que le violon soit caractérisé. C'est un violon aigu, mélodique, etc. Je peux aller explorer d'autres choses. Donc oui, je m'en sers beaucoup, pas surtout sur le répertoire irlandais, par exemple, je m'en sers très peu. En Centre France, oui, beaucoup.
La guitare dans le trad, effectivement, c'est pas du tout répandu. Ça l'est beaucoup plus en musique bretonne, paradoxalement, alors qu'en fait, c'est quand même, les instrumentariums ne sont pas si éloignés, cornemuse, violon, accordéon, enfin, on est quand même un peu sur les mêmes choses. Mais la place de la guitare a vachement plus de place dans ces musiques-là, ces musiques bretonnes. C'est pas du tout la loose de jouer de la guitare en musique Centre-France, c'est presque un peu le contraire, même si... En fait, c'est marrant parce que quand on est quoi, peut-être une dizaine à jouer de la guitare en musique Centre-France, on n'est pas beaucoup. J'ai envie de ressortir cette expression là que j'aime bien, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc voilà, c'est presque un peu facile, d'avoir ce rôle-là, d'un peu explorer des couleurs, en tout cas l'utilisation de cet instrument en musique Centre-France. Bon, voilà, moi je la trouve plutôt opportune et j'aime bien. Le sistre, maintenant, c'est pareil, c'est beaucoup une histoire d'opportunité. J'ai fait du bouzouki en musique irlandaise. J'aimais pas l'instrument, je trouvais ça pas ergonomique, enfin, je me faisais mal. Le manche est beaucoup plus long, je me massacrais l'épaule. Et j'ai essayé un sistre sur un salon de lutherie à Bouligan, je crois. Un sistre de Boluda, Marc Boluda. Et par hasard, j'ai un copain qui m'a fait part d'une annonce pour un sistre de Marc Boluda d'occasion. Donc l'histoire était assez rigolote parce que je l'ai acheté à une bonne sœur du nord de la France. Une religieuse, pardon, on dit religieuse. Et voilà, je m'y suis mis un peu par hasard. Vraiment, pendant la première année, il est resté quasiment au placard tout le temps. Je le sortais un peu de temps en temps. Et après, j'ai réussi à le sortir en session irlandaise. Et là, ça a tout débloqué. J'ai commencé à vraiment en jouer. Et une fois que j'ai commencé à l'introduire dans les groupes, après, voilà, ça stimule, ça permet d'explorer plein de choses. Et c'est devenu quasiment aujourd'hui mon instrument principal. Pour revenir sur la guitare, c'est vrai que cet instrument, dans l'esthétique Centre-France, colle mieux avec ce qu'on attend en tout cas d'un instrument d'accompagnement. Un peu plus à bourdon, un peu plus dans l'aigu, un peu moins couleur folk, dans le sens folk, chanson folk, folk américain et tout ça, quoi. Et aussi beaucoup plus de mélodie pour moi. C'est un instrument qui se prête beaucoup plus à jouer de la mélodie que la guitare. Donc très satisfaisant de ce côté-là. Et ça nous amène aussi, et je reviens sur la Cialire, à intervertir nos rôles entre Nina qui adore faire de l'accompagnement et moi qui du coup joue aussi pas mal de thèmes, que ce soit la guitare ou au sistre. On arrive à se passer le relais et puis à pas se cantonner dans des rôles d'accompagnateur, mélodiste.
En fait, ça vient d'un morceau qu'on joue. J'aimais bien les sonorités, parce que pas habituel. Et c'est le nom d'une scottish du Morvan, composée par Eric Rayard, je crois. Moi, je la connaissais par un violoneux du Morvan. Je l'avais apprise quand j'avais 14 ans, à La Roche-Millet, à l'époque, à la fête du violon. Et je la joue depuis super longtemps. C'est un morceau que j'aime beaucoup, une scottish. Ça correspondrait à une vague histoire de Libellule, du Morvan. On ne sait pas si c'est vrai, on n'a trouvé aucune source, on a fouillé sur Internet, mais on aime bien l'histoire. Donc voilà, on a gardé ce nom et on en a fait l'emblème de notre CD, une petite libellule.
Le rapport à la danse et au bal, comme vous avez aussi des formations qui sont pas du bal folk, enfin l'irlandais c'est peut-être ça se danse et tout ça, mais c'est pas du bal folk, qu'est-ce que c'est votre rapport au concert ou à la forme dansée et à quel point vous réfléchissez à ça, est-ce que vous faites vous-même le duo, est-ce que le duo fait du concert, voilà.
Oui, on fait du concert tous les deux et oui, on adore ça parce que justement, ça nous apporte un autre rapport au public que le côté. Alors, c'est pas péjoratif, mais le caractère fonctionnel de la musique à danser. Et le rapport au public, il est très différent. C'est très satisfaisant de voir des gens danser, mais c'est aussi très satisfaisant de voir des gens nous écouter, hein, et vraiment nous écouter. Ouais, ça donne une relation très différente. Moi, je suis ravi de pouvoir faire les deux. Je fais un peu moins de concerts en ce moment, mais j'aimerais en refaire plus. Et oui, la réponse à l'autre question est oui, le duo propose aussi des formules concerts. Mais on explore d'autres types de répertoires. Je laisse Nina compléter, si tu as envie.
On a commencé à faire du concert aussi parce qu'on avait envie de jouer, de s'ouvrir un peu au cadre imposé par les danses trad, de sortir en termes de rythmique, d'influence, etc. Donc on a commencé par faire des concerts acoustiques. Et là aussi, c'était à la fois faire du concert et à la fois pas derrière un micro, à côté des gens qui t'écoutent, qui te regardent. Donc je pense que je n'avais pas stressé comme ça depuis, depuis des années. Mais c'est vraiment très très agréable d'être juste là avec nos instruments et des gens qui écoutent. Ça change du bal. Moi, c'est assez récent le concert. Hein. À part le conservatoire, j'avais pas fait. J'ai surtout joué en bal, où c'est facile, entre guillemets, facile d'échanger avec le public. Au concert, faut vraiment donner pour créer un lien avec les musiciens.
Que ce soit pour le bal ou le concert, c'est vraiment, on fonctionne au coup de cœur, quoi. On a envie de jouer cette musique, on la propose à l'autre, et si on est tous les deux partants, on y va, quoi. Sans se poser trop de questions sur une ligne artistique ou une philosophie derrière. Voilà, en scoop et en avant-première, on est en train de travailler avec à développer une. On ne sait pas encore quelle formule ça va prendre, mais plutôt un Cialir en trio. Voilà, on va dire ça. Et on bosse avec Lucas Thébault en ce moment sur un nouveau répertoire, une adaptation des répertoires qu'on a déjà un petit peu en duo.
Mais sans arrêter le duo, qui est très couleur, cordes, etc. Enfin, mais d'avoir un petit truc en plus.
Ouais.
Reste en bonne compagnie puisque Nina Lachia en parlait dans l'interview. L'un de ces groupes est un trio né d'une rencontre à Montpellier et c'est Trois Pas d'Ici. Bon, alors c'est vrai que ça fait un peu émission Nina Lachia, mais c'était la bonne opportunité pour vous faire aussi découvrir
c'était
Trois Pas d'Ici.
C'était une transition facile.
Voilà. Donc elle est elle-même au violon 5 cordes, mais figurez-vous que Lucille Marsac est aussi au violon 5 cordes. Et oui, il y a plusieurs personnes
vrai.
Qui
oui,
font
oui.
du violon
elle
5 cordes.
Oui, oui, oui.
Et puis Marie Perra, qui est la troisième personne, qui est au diatto. Alors toutes les trois chantent aussi, et puis plusieurs morceaux sont travaillés uniquement à la voix, en jouant sur les trois timbres et sur la polyphonie, puis d'autres sont uniquement instrumentaux. Donc c'est ce qu'on a choisi pour vous, les faire découvrir, un morceau instrumental, un bal limousine, un traditionnel du Poitou, qui est donc l'un des répertoires qui est exploré par Trois Pas d'Ici, avec aussi l'Auvergne et le Morvan. Et donc ce bal limousine qui s'appelle tout simplement, et je vous le donne en mille...
Bal limousine.
Bal limousine.
Alors, c'est vraiment parce qu'Amélie a insisté que je vais vous faire la petite minute culturelle à propos du bal limousine. Si je me souviens bien de ce que nous a dit Lucas Thébault au stage Midrillaz de l'été dernier, celui dont vous a parlé dans l'émission spéciale Midrillaz, le bal limousine, en fait, c'est une création récente à partir d'une danse traditionnelle s'appelait le bal, dont on connaissait encore la forme. Et quelqu'un a trouvé, je sais pas, à un endroit, deux partitions. Il y en avait une, c'était le bal, et l'autre, un truc qui s'appelait limousine, dont on savait pas comment à se danser. Il a décidé de joindre les deux pour en faire un A et un B, et ça a donné le bal limousine, qui est devenu une forme de danse dont le premier, qui était joué par Trois Pas d'Ici, c'est très proche, je crois, du bal limousine original. Voilà.
C'est complètement fake, la tradition, en fait.
Complètement. Allez, on va écouter pour finir une nouveauté venue de Belgique avec le groupe Bouton. Dans la chanteuse va nous faire part de sa préférence pour les roues dans le cadre de sa recherche d'un homme idéal. Voilà, ils vont sortir le 4 avril un clip session live de ce morceau, pour lequel ils avaient recruté en amont via les réseaux sociaux un paquet d'hommes roues pour des moments de déclaration de flamme. Voilà. Ils ont poussé à ce point le souci du détail que dans le clip, on voit un ampli de la marque et de la couleur orange, peut-être pour aller avec roux, ce qui peut aussi témoigner d'un excellent goût en matière d'esthétique musicale au-delà des préférences romantiques sur lesquelles nous n'avons rien à dire.
On peut peut-être rappeler pour ceux et celles qui ne sauraient pas de quoi l'ampli orange est l'ampli emblématique.
C'est l'ampli emblématique des musiques hard rock années 70, le classique rock années 70, et c'est devenu le truc du stoner rock aujourd'hui, le truc de fumeur de joint. Nous allons entendre ce titre, donc Roux, que le groupe Bouton nous a envoyé, et pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je ne sais pas ce que vous allez en penser, vous nous direz dans les commentaires, on fait ça sur Facebook pour avoir des commentaires.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner.
Voilà, de vous abonner. Moi, ça me fait beaucoup penser à Ma Petite, pas seulement du fait de la voix au perché de la chanteuse et autrice Fanny Vandenberg, mais surtout à cause des arrangements atmosphériques un peu jazz-prog qui ressortent de tout ça, en plus électro que Ma Petite, puisque le quatuor inclut aussi Gilles Donneux aux machines et aux trombones, il passe de l'un à l'autre, ainsi que Rudé Maté à la clarinette basse et Joachim Launeux à l'accordéon diatonique. Voilà, j'apprécie particulièrement, vous l'entendrez à la fin, les envolées de la clarinette qui m'évoquent d'autres genres de choses qu'on aime beaucoup, comme ce que fait le saxophoniste jazzeux Émile Parisien. Ça finit un peu en free jazz, alors pas trop radical, mais un petit peu quand même sur la fin, en complément du chant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et je suis impatient d'en entendre plus et éventuellement de voir Bouton sur scène, même s'ils ont l'air pour l'instant de se produire, d'après ce que j'ai vu, plutôt dans le nord et dans l'est de l'Europe. On les verrait bien tourner quelque part dans le réseau des SMAC, ici ou là. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et c'est avec Bouton qu'on se quitte et qu'on vous dit à bientôt pour la 35e de l'Écho du Parquet.
À la prochaine.
Blond, un châtain ou noir, y a peu d'importance.